Je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais dignes de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise.
Nous avons écouté les discours de Patrice Lumumba, premier Premier ministre de la RDC, prononcé le 30 juin 1960. Lumumba parle juste après le président de la République, Hera Baudouin, qui dans son discours prétend que l'indépendance du Congo soit le fruit du génie civilisateur.
Nous sommes ici avec Alu Balde, du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Alu, tu peux revenir sur votre lutte pour l'assignation d'une place Patrice Lumumba, qui a duré plus de 10 ans, et nous dire ce qui a été le plus difficile dans cette lutte.
Le premier lieu pour lequel le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, Change ASBL, BAMCO, la bibliothèque Lumumba, etc., ont revendiqué une place, c'est dans le territoire d'Ixelles, dans le quartier Matongué, derrière l'église Saint-Boniface. Il y a une place là qui n'a pas de nom. Alors, c'est parti en fait du dispositif légal, puisque en Belgique, il est plus facile de nommer que de renommer. Donc quand une place n'a pas de nom, c'est plus facile de, dans les procédures administratives en tout cas, de lui donner un nom. Alors que si elle est à renommer, c'est souvent des personnes qui sont domiciliées à ces adresses et qui doivent faire les démarches pour le changement d'adresse. Et donc, l'un des premiers lieux où ça s'est concentré, c'est là. Et pendant 10 ans à peu près, il y a eu là des rassemblements, des hommages, des fins de marche, ce type de choses, à cette place pour réclamer ou revendiquer en tout cas que le Mumba, que cette place porte le nom de Lumumba. Et donc, en parallèle de ça, il y a tout le travail qui a été fait au niveau de la commune, puisque c'est un travail de lobbying qu'il a fallu faire, au travers le dépôt de motions, au travers de contacts via de personnes qui connaissaient des échevins ou qui connaissaient la bourgmestre, ce type de choses, pour évoquer l'éventualité d'avoir une place Lumumba sur le territoire d'Ixelles. Cette demande a été refusée pendant 10 ans, pour plusieurs raisons. Il y en a deux principales. La première, c'est que d'abord, il était régulièrement dit par ceux qui s'opposaient à la place qu'en réalité, le Mumba n'était pas un personnage consensuel et qu'il ne l'est pas tout simplement. Et donc consensuel, c'est-à-dire il ne fait pas l'unanimité ou il ne fédère pas. Ce avec quoi nous, on n'était pas d'accord une chose, et on répondait que Léopold II était dans l'espace public et que Léopold II non plus n'est pas un personnage fédérateur, consensuel, etc. Et pourtant, il est dans l'espace public de plusieurs manières. Et donc, la place Lumumba, ça a commencé un petit peu comme ça. Le deuxième argument qu'on avait souvent, c'est que si on avait un autre personnage consensuel, par exemple Mandela, c'était possible. Donc, pendant 10 ans, ça a été un refus. Bien sûr, au-delà de ces deux arguments, il y a d'autres réalités qui sont plutôt de l'ordre de l'interprétation que nous on fait, en fait, du refus. Donc la première, c'est que d'abord, les majorités politiques qui étaient à la commune d'Ixelles, donc la majorité mouvement réformateur, parti socialiste, ont toutes deux des casseroles coloniales, notamment le mouvement réformateur. Et donc, il est bien connu qu'un certain nombre de familles coloniales financent le mouvement réformateur. C'est pas des choses. C'est un secret de polichinelle, tout le monde s'en rend bien compte. C'est d'ailleurs pas un hasard si le MR occupe le poste du ministère des Affaires étrangères depuis plusieurs gouvernements fédéraux maintenant. Et que les Michel ont un certain nombre d'intérêts au Congo également. Donc, pour nous, c'était pas mystérieux de refuser la place Lumumba, en tout cas de la part de cette majorité-là. Et donc, ce qui s'est passé concrètement, c'est que aux alentours de 2018, les choses se sont un peu accélérées pour plusieurs raisons. D'abord, il faut rappeler que c'était un contexte électoral et que en 10 ans. Le nom de Lumumba, la revendication de la place autour de Lumumba était bien connue. Hein. Et donc, politiquement, en tout cas pour quelqu'un qui cherche un électorat, c'est plutôt intéressant comme enjeu. Et donc, on a reçu de la part de la ville de Bruxelles une invitation à venir discuter de cette place Lumumba. Donc là, on quitte XL vers Mille-Bruxelles. Et donc, à Mille-Bruxelles, en arrivant, on se rend bien compte que c'est en fait deux personnes principalement, qui sont Lydia Mouchebele, qui aujourd'hui est échevine, on ne sait plus exactement quelle est sa responsabilité précise, qui à l'époque était conseillère communale, qui avait l'oreille de Philippe Claus. Philippe Claus, le bourgmestre, et Claus, nous invitant à cette réunion, nous dit voilà, moi j'ai sur mon territoire ce bout de terrain qui est à la frontière entre Matongé et Mille-Bruxelles, qui ne porte pas de nom, et donc je vous propose ce lieu comme la place du Mont-Pas. Autour de la table, il y avait la commune, il y avait nous, Mémoire Coloniale, il y avait Change ISBL, il y avait Jefaya et il y avait Bamko. Donc, au début, c'est comme ça que ça a commencé. Et les négociations ont duré. Il n'y avait pas vraiment de négociations sur le fait d'avoir la place ou pas. Ça, c'était déjà un acquis dès le départ. Quand la proposition a été soumise, évidemment, les associations africaines ont été discutées entre elles. Et. De commun accord, on a décidé de saisir l'opportunité. Et en plus, ça donnait quasiment l'impression que c'était aussi à Excel, puisque c'est à l'entrée du quartier Matongé, devant la porte de Namur. Et donc, quelque part, ça s'est un peu fait comme ça. Et dans la suite des 2 mois, je crois, donc avant juin 2018, je pense, mai et avril, les réunions avaient déjà commencé, on avait déjà eu un certain nombre de réunions pour discuter de les festivités autour du 30 juin 2018, date d'inauguration de la place et date d'indépendance du Congo. Et donc ça s'est fait un peu comme ça. On a commencé les réunions, il y avait de temps à autre certain nombre de tensions dues à plusieurs, je ne vais pas entrer dans le détail ici. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est fait et... finalement, la place a été inaugurée le 30 juin 2018. Alors, j'oublie un argument important qui était aussi soulevé par la commune d'Ixelles, qui s'est d'ailleurs aussi retrouvé autour de la table quand Mille-Bruxelles nous a contactés. Je me souviens qu'ils sont venus à 2 réunions, et à l'époque c'était le cabinet de Péa Diallo, qui est maintenant rentré en Guinée-Conakry et qui est devenu ministre des Sports en Guinée. C'est son chef de cabinet qui venait en réunion, ce avec quoi nous n'étions pas d'accord, parce que XL avait raté son moment, et il était hors de question pour nous. Quand je dis nous, c'est pas que Mémoire Coloniale, toutes les associations africaines autour de la table, de saisir électoralement l'opportunité. C'est-à-dire qu'on se rendait bien compte que Philippe Claus ne le faisait pas par militantisme ou quoi que ce soit. Il faut qu'on se dise les choses comme elles sont. Mais pour nous, en tout cas, XL avait raté son opportunité. Mais bon, bref. 30 juin 2018, la place est inaugurée. Et voilà. Une des craintes que XL, en tout cas la majorité politique, avait, Madame Dufournier en particulier, c'était de dire, on va donner une place au Mumba et ça va devenir un lieu de manifestation et de revendication. On est en démocratie. Normalement, il n'appartient pas aux politiques de dire aux gens, vous ne devez pas manifester. Il appartient plutôt au corps politique de dire, ça c'est la règle et nous on va prendre les mesures pour que ça se passe bien. C'est tout ce qu'ils peuvent faire légalement. Mais bon, apparemment, un certain nombre de revendications décoloniales étaient de l'ordre de la violence systémique, du dérangement concrètement de certaines personnes. Et donc, elle n'est pas prophète. La place Mumba existe et effectivement, elle est devenue un lieu de manifestation et un lieu de revendication. Et c'est tout à fait légitime. Donc, voilà un peu pour faire le résumé de 10 ans de lutte.
Et donc, il y a quelques semaines, en fin janvier 2022, dans le cadre de l'instruction sur l'assassinat de Lumumba au Parlement, le même Parlement refuse de livrer des pièces qui sont relatives aux travaux de la commission d'enquête sur demande de la justice, donc de Lumumba, enfin de François, pardon, Lumumba, qui s'est constitué partie civile. Selon toi, pourquoi il y a autant d'enchaînement dans la reconnaissance de la responsabilité de la Belgique encore 60 ans après cet assassinat?
En fait, Lumumba, c'est quelqu'un de très spécifique dans les luttes. C'est vraiment quelqu'un de fascinant. Parce que même l'ayant assassiné le 17 janvier 1961, les puissances comme la CIA, les États-Unis, la France, la Belgique, etc., se disent « ça en est fini de ce personnage ». En réalité, il se trouve que même quand on décide de faire disparaître son corps, il y a une dent qui s'entête. Il y a une dent qui décide, qui est ramenée en Belgique. Donc, ayant voulu se débarrasser physiquement de lui, ils en ont fait un martyr qui ne disparaîtra jamais. Et même dans la façon dont ils ont voulu le faire disparaître physiquement, ils n'ont pas réussi. Puisqu'il persiste encore aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le spectre de Lumumba. C'est-à-dire que il va continuer à hanter toutes les personnes qui ont été impliquées dans son assassinat. Et au passage, qui ont altéré le destin de tout un peuple congolais. Donc l'importance pour nous de Patrice Lumumba reste que, et c'est pour ça que même l'évocation de son nom et l'apparition de son nom dans l'espace public, à Bruxelles et dans d'autres zones, soulève d'énormes débats. Parce qu'il est spécifique en ce sens où sa dimension a dépassé largement le Congo, largement le continent africain. À sa mort, quand le monde entier a appris sa mort, il y a eu des manifestations un peu partout, il y a eu des revendications un peu partout. Donc, que le Parlement, aujourd'hui, ne veuille pas aller dans le sens de faire toute la vérité sur la mort de Patrice Lumumba, de Joseph Okito et de Maurice Mpolo, c'est en fait d'abord un déshonneur pour ce Parlement qui ne comprend pas le sens de l'histoire, parce que le sens de l'histoire, inévitablement, la vérité va sortir. L'histoire est le tribunal des peuples, comme on dit. Il y aura un jour, tôt ou tard, la vérité va apparaître. Et cette Belgique, timidement, depuis l'indépendance, depuis l'assassinat, jusqu'au jour d'aujourd'hui, continue par des jeux, des micmacs à gauche-droite, de ralentir, en fait, le fait qu'un jour, la vérité soit faite. J'ai un aîné qui a un proverbe qui répète souvent, c'est que quand tu balayes chez toi et que tu caches la poussière en dessous de ton lit, sache qu'un jour, soit tu vas mourir, tu vas laisser la maison, quelqu'un va venir balayer en dessous de ton lit, soit un jour tu vas simplement déménager et d'autres aura affaire à ta poussière. Ce qui se passe en fait ici réellement, c'est qu'on continue de vouloir cacher, de mettre au frigo, pour reprendre une expression bien connue en Belgique. Le problème avec ça, c'est que vous allez beau retarder la chose, les luttes ne vont que se nourrir en fait de la résistance. Rappelons que le Mumba lui-même, sa radicalité vient du fait que le pouvoir colonial léopoldien, le pouvoir colonial belge, ne veut absolument pas bouger sur ces lignes. Parce qu'à la base, c'est un réformiste. Ce n'est même pas quelqu'un de radical ou quoi que ce soit, de révolutionnaire. Tout son changement vient avec le contact avec certains panafricanistes et avec le contact de certaines lectures qui vont l'amener à changer radicalement sa position. Donc, à notre sens, que le Parlement dise aujourd'hui non, un jour il finira par dire oui. Maintenant, c'est à nous, mouvement, et toute personne qui se sent la nature, en tout cas, de participer à ces luttes, d'amener au rapport de force. Parce qu'inévitablement, c'est ce qui va faire la différence.
C'est ça, c'est nous qui ferons la pression pour que la vérité sorte dans l'autre, quoi. Comme ça a été toujours le cas dans l'histoire.
Ne tombe pas du ciel.
Une élite de tous les jours. Une élite ardente et idéaliste. Une élite dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit des larmes, des feux et des sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste. Une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaire, qui ne nous permettait ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera quand un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voies honorables étaient réservées aux seuls blancs.
Tu nous avais conseillé la dernière séance qu'on a fait avec Kinoa de regarder le film Lubumba. Donc dans une des scènes finales, donc le film de la Ulpec, Lubumba écrit, mais c'est une lettre imaginaire à sa compagne où elle dit beaucoup de choses, mais il parle de leurs enfants et tout, et après il dit: tu n'as jamais rien su de cette nuit au Katanga, donc la nuit où il est mort. Tu diras à nos enfants que je suis arrivée 50 ans plus tôt. Ma demande est à toi, donc on sort un peu du personnage de Lubumba, mais se dire, est-ce qu'on a encore besoin des héros et héroïnes aujourd'hui, ou est-ce que tu penses qu'on est un peu plus prête pour un changement qui soit un peu d'envergure? donc le changement que tu souhaites.
Alors, je ne sais pas si de manière générale, on a besoin tout le temps de héros et héroïnes, ou de leaders spécifiquement que pour pouvoir amener à ce que les luttes aient du succès. Moi, je crois beaucoup à la capacité d'organisation des groupes et à la capacité qu'ont les groupes à apporter leur rapport de force au-delà des individus ou au-delà du leadership. Mais je crois que des héros comme Lumumba sont nécessaires. Pour nous autres Africains, moi je suis Africain de Guinée-Conakry et chaque année on reparle de Lumumba. Il y a le film de Raoul Peck qui est repassé à la télévision. C'est-à-dire que pour nous, en Guinée, à des milliers de kilomètres du Congo, Lumumba a une position centrale dans le fait d'être même citoyen guinéen, ou citoyen africain tout court. Donc pour nous, Lumumba reste important et restera toujours important. Sa mémoire doit être cultivée. Et en parlant de lettres, il y a une autre lettre qui, par contre, celle-là n'est pas fictive. C'est celle qu'il adresse à Pauline Lumumba, sa femme. C'est d'ailleurs un extrait de cette lettre qu'on a choisi pour la place Lumumba ici à Bruxelles. C'est-à-dire qu'il y a la plaque qui indique Patrice Lumumba et puis il y a une autre plaque avec un petit texte où il va faire une espèce de testament parce qu'il comprend en fait de sa prison où il écrit la lettre qu'en réalité il va bientôt mourir, assassiné. Et que donc il doit laisser ses dernières volontés d'une certaine façon. Donc je crois que les héros et héroïnes peuvent être nécessaires, mais c'est surtout la capacité des gens à s'organiser qui fait la différence.
On voit qu'il y a, avec la candidature de Zemmour, l'avancement de l'extrême droite un peu partout, ici en Belgique, en Europe, ces derniers temps, qu'il y a une polarisation croissante sur ces questions-là, sur la question de l'antiracisme surtout, et du racisme. Est-ce que tu penses que, justement, on a, en ces dernières années, une montée du racisme, ou alors, toi, en tant que personne noire combattante, tu as toujours vu ce racisme structurel chez les institutions, quoi, qui a toujours existé, ou est-ce qu'on passe une période un peu plus noire, quoi, de l'histoire?
Il y a un texte de Césaire qui s'appelle « Discours sur le colonialisme » où il parle d'Hitler. Et en fait, avant d'arriver à Hitler, il parle de tout ce qui a fait l'Europe. Et pourquoi un personnage comme Hitler peut sortir d'un contexte tel que celui-là? Qu'il ne va pas chercher ailleurs des inspirations venues de quel enfer, je ne sais pas. C'est typiquement un personnage qui sort de cette Europe, qui a construit la sauvagerie, qui a construit la barbarie, qui s'est décivilisée au passage. Le dernier film de Raoul Peck en parle très bien d'ailleurs, « Exterminer les brutes », où il évoque dès le départ le fait qu'en réalité, le crime du nazisme ressemble à beaucoup d'autres qui ont été faites. Il est unique en son sens, mais il a aussi des similitudes avec d'autres. Et dans le cas précis de Zemmour, Zemmour ne sort pas de nulle part non plus. Il sort d'une France coloniale, une France de la France-Afrique, de l'Empire qui ne veut pas mourir. Zemmour ne sort pas de nulle part. Zemmour condamné à deux fois pour haine raciale spécifiquement, a tout de même la capacité légalement de se présenter à l'élection présidentielle, d'obtenir éventuellement les 500 signatures et de pouvoir briguer le poste le plus élevé politiquement dans la République française. Donc, pour nous, ce n'est pas la montée du racisme, c'est le racisme. C'est à l'image de ce que la France a été depuis qu'elle est en contact avec les ressources que nous sommes et les ressources que nous avons. Donc, ce n'est pas pour nous inédit, Zemmour est dans la lignée de beaucoup de choses qui ont été faites. D'ailleurs, il le rappelle terriblement bien, c'est que lui-même, il s'inspire d'une France quand, en tout cas dans son esprit, cette France était encore glorieuse.
Comment on combat la haine envers l'autre, les stéréotypes, comment est-ce qu'on libère la parole des personnes qui sont oppressées, racisées? Finalement, l'histoire de la Belgique, c'est un récit qui exclut certaines personnes. Quoi. Comment est-ce qu'on peut intégrer dans ce récit national l'histoire de tout un chacun?
Alors,
qu'est-ce que vous faites, vous, à Mémoire coloniale, par exemple?
Nous, on ne travaille pas à s'intégrer. Nous ne travaillons pas à intégrer l'histoire de la Belgique ou à s'intégrer dans la société pour des raisons que je ne comprends pas toujours. Parce que dans le processus même d'intégration, il y a le racisme. Nous, on n'est pas dans cette approche-là et au mieux, on essaye de se désintégrer, d'ailleurs. De se désintégrer de la blanchité qu'on nous promet comme destin formidable. Il faut relire les ouvrages de Fanon. Fanon dit « Le destin du noir, c'est d'être blanc. » Parce qu'on a convaincu le noir qu'il n'était rien. Et qu'en plus de ça, ben, s'il veut être un homme, tout court, il doit être un homme blanc. Donc, dans le cheminement du darwinisme social, nous ne sommes pas dans cette lignée-là. Nous sommes dans la déconstruction du récit colonial. Qui est un acquis qui n'avait pas été remis en cause depuis très longtemps, de manière sérieuse. Et donc, dans la déconstruction de ce récit, nous déconstruisons l'image qu'on a construite de nous, de cet autre, perpétuel étranger, toujours étranger, sur 2, 4, 20 générations, toujours étranger et toujours pas assez intégré, et toujours donc à intégrer. Donc quand on dit qu'il faut nous intégrer, c'est que d'autres ont la lourde responsabilité de nous intégrer. Et qu'ils ont beau tout faire, ils n'arrivent vraiment pas à le faire. Raison pour laquelle, pour en venir sur des questions de violence policière par exemple, à chaque fois qu'il y a des revendications concrètes sur on veut pas de police dans nos quartiers, on veut moins de police, on nous dit non, il faut la police de proximité. Comme s'ils n'étaient pas déjà assez proches de nous. Beaucoup trop proche, on veut de la distance avec. Et donc bref, tout ça pour dire que pour nous, la construction de l'antiracisme, c'est d'abord c'est la récupération d'un rapport de force. C'est d'être fort où nous sommes et de préserver au mieux notre dignité humaine. Maintenant, ça peut prendre beaucoup de formes différentes, mais c'est fondamentalement le fait de pouvoir exister dignement au quotidien.
Et pour déconstruire ces discours-là dont tu viens de parler, c'est quels outils vous utilisez à Mémoire coloniale? Par exemple, il y a les visites, mais il n'y a pas que ça, j'imagine.
Il n'y a pas que les visites guidées. Les visites guidées, c'est un aspect important, mais ce n'est pas le seul. Il y a tout un ensemble d'outils qui sont à destination de l'extérieur du collectif surtout. Donc c'est les visites guidées, les conférences, un certain nombre de formations qu'on donne et animations dans des écoles. Il y a beaucoup de travail de lobbying politique qui est fait dans différentes institutions, différents organes de la société. Et puis il y a tout le travail de formation en interne sur les militants. Qui prend beaucoup de temps à Mémoire coloniale. Et il y a tout le travail aussi de structuration de l'organisation, qui n'est pas facile au quotidien, puisque quand on fait un groupe c'est fait aussi d'individus avec des sensibilités, des parcours différents et divergents. Donc il faut arriver à concilier tout ça pour en faire un groupe compact, capable d'exercer un rapport de force d'heure. Et donc... faut faire le changement ailleurs sans faire le changement chez soi. Donc nous sommes perpétuellement en train de de nous remettre en question, de travailler sur nos lignes politiques, de retravailler, de les adapter, etc., etc. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps en interne. C'est d'ailleurs, je pense, le principal de ce qu'on fait.
Tu parlais de formation à d'autres militants. Ça m'intéresse pas mal parce que je me demandais en quoi est-ce que les mouvements sociaux en Belgique, donc tout ce qui est groupe citoyen, militant de gauche au sens large, est-ce que tu estimes qu'on soutient suffisamment la cause de la décolonialité et la lutte antiraciste?
C'est difficile à dire. Ma réponse va être diplomatique. Disons ça comme ça.
Tu peux ne pas être diplomatique.
Disons qu'il y a la question centrale des alliés qui est posée au travers de cette question qui mérite beaucoup de réflexion. Il y a des réflexions qui sont en cours, y compris chez Mémoire Coloniale, mais aussi dans beaucoup d'autres organisations afrodescendantes. Parce que souvent ce qu'on remarque de la part d'organisations qui disent soutenir la lutte antiraciste, ou de personnes blanches pour la plupart, qui disent soutenir les luttes antiracistes, elles partent du fait d'abord qu'elles sont alliées parce qu'elles ont reconnu leur privilège d'être blanc. Et que donc, du fait d'avoir reconnu que j'ai un privilège, ben, ça fait de moi un allié idéal pour les personnes noires. Mais il y a beaucoup de problèmes avec cette affaire. Pourquoi ? Parce que c'est pas la reconnaissance de la part d'un individu ou d'un groupe d'individus de leur situation de privilège qui change le fait qu'ils ont des privilèges. Et ça semble complètement sorti de la réflexion d'ailleurs. Souvent. C'est j'ai reconnu que je suis un blanc et donc ça me donne le droit de. Donc, et dans le droit de, souvent, quand les luttes antiracistes sont poussées jusqu'à un certain niveau et que le rapport de force est palpable, et c'est souvent ces personnes en situation d'alliés qui en profitent le plus par rapport aux personnes en situation de racisme.
En profite dans quel sens ?
En profite dans le sens de, c'est souvent des moments où, je pense à BLM par exemple, BLM, ça a été une explosion médiatique terrible. Et donc, ça a amené très rapidement le mouvement politique à se positionner. On a eu un certain nombre de commissions qui sont apparues subitement comme ça, et des financements aussi qui ont été subitement donnés aussi. La question que je pose, c'est au final, qui a bénéficié de ces financements ? Beaucoup ont fait des campagnes antiracistes depuis. Beaucoup ont été subsidiés sur des choses très précises. Et c'est souvent pas des associations africaines. C'est-à-dire que le système en lui-même se réforme automatiquement par le jeu des rapports de force, mais n'amène pas vraiment le changement. Tout ça pour dire qu'en réalité, ces mouvements sociaux, de manière générale, disent soutenir. Et certaines, il arrive qu'il y ait des vrais soutiens. Ça, c'est indéniable. Mais c'est chronique de la gauche, en fait. C'est chronique de la gauche. Je reviens à Césaire parce que Césaire, dans les années 50, démissionne du Parti communiste français. Une lettre qui est très fameuse qu'il écrit, ou une phrase qui dit « Ce que nous voulons, c'est que le communisme soit mis au service des peuples, et non pas les peuples mis au service du communisme. » Et il parlait de la gauche de manière générale. Et donc, si la gauche veut véritablement travailler à soutenir autant les mouvements d'indépendance à l'époque, que les mouvements décoloniaux antiracistes aujourd'hui, elle doit faire une profonde remise en question. Je reviens sur un dernier élément, c'est que, par exemple, hein, quand beaucoup de mouvements indépendantistes ont pris des caractères nationaux, nationalistes, la gauche internationale n'a pas beaucoup compris ça. Et pourtant, parfois, c'était devenu des nécessités, parce que les puissances coloniales avaient éclaté un certain nombre de grands ensembles. Donc, toutes ces dynamiques sont profondément inscrites dans la société et je ne vais pas dire moi personnellement que je... Enfin, je ne veux pas parler au nom de mémoire coloniale en disant que mémoire coloniale ne croit pas aux alliés. Mais moi, ma position personnelle, je n'y crois pas à ces questions d'alliés. Je pense plutôt à la question des intérêts. Parfois, nos intérêts peuvent coïncider et donc on peut travailler ensemble. Mais le badge d'allié, je me prive de le donner à aucun blanc.